Comment faire sa place dans le parasport lorsqu'on est un athlète avec une déficience intellectuelle? Comment la réussite par le sport peut servir de tremplin dans la vie de tous les jours? On le découvre dans un instant au Signal. Vendredi 24 novembre, Kevin Breton au micro pour cette 10e émission d'Au Signal. Si j'ai bien gardé le compte, je pense que c'est la 10e. Mathieu me fait signe dubitativement qu'il n'est pas certain. C'est soit la 9e ou la 10e. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui à l'émission, on a deux invités en studio. C'est bien la 10e qu'on me confirme. Génial, je me suis pas trompé. Sinon, ça aurait mal commencé cette émission. Là où je me tromperais pas, c'est dans le nom de mes invités. Amélie Plouffe, athlète qui participe aux Olympiques spéciaux. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Accompagnée aujourd'hui de sa mère, Dominique.
Bonjour.
Et un petit peu plus tard à l'émission, on va rejoindre Maude d'Olympiques spéciaux pour nous parler d'un programme d'initiation scolaire au sport qui vise à faire bouger les jeunes, soit avec un trouble du spectre autistique ou encore avec une déficience intellectuelle, et les initier à différents sports. Mais avant tout, j'ai demandé à Maude de me conseiller parmi ses nombreux athlètes au Québec. Est-ce qu'il y en avait un ou une qui, semble-t-il, a beaucoup de verve et aime bien parler et s'implique beaucoup? Puis on m'a tout de suite donné le nom d'Amélie. Amélie, je pense que la première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu peux nous résumer c'est quoi Olympiques spéciaux?
Olympiques spéciaux, c'est un organisme à but non lucratif visant à enrichir les athlètes, les déficients intellectuels par le sport. Donc, c'est la pratique de sport.
Toi, tu es impliqué à plusieurs niveaux parce qu'en plus de participer à des sports, tu es en plus sur le conseil d'administration d'Olympiques spéciaux.
Oui.
Ça fait longtemps?
Oui, ça va faire 3 mandats de 2 ans chacun.
Donc, c'est la 6e année sur laquelle tu es sur le conseil d'administration.
Oui.
On va pouvoir parler de tes responsabilités au sein du CA, mais d'abord, on veut parler de sport, hein, parce que c'est une émission de sport au Signal. Tu es une athlète de natation. Comment est-ce que la natation est entrée dans ta vie?
Ça m'a été amené par mon intervenant du CRDI, Normand Laramé. On a regardé, puis on se disait, quand j'avais à peu près 13 ans, est-ce que j'aimerais faire du sport, est-ce que j'aimerais en faire? Et ça a été oui, puis ils m'ont montré les différents types de sports qu'on pourrait retrouver à Laval, ma ville. Mm-hmm. Donc, ils m'ont parlé de ça, puis moi, j'ai vu qu'il y avait de la natation, puis j'ai comme cliqué tout de suite pour aller faire de la natation. Donc, ça a été amené par ma personne, Normand Laramé.
Du CRDI. Donc. Puis, pourquoi la natation plus qu'un autre sport? Est-ce que tu préférais faire un sport individuel plutôt qu'un sport collectif? Ou...
J'aimais bien la natation. Du fait que c'était un sport un petit peu plus individuel, j'avais pas la pression de devoir dire, bon, je suis avec une équipe, puis si je fais pas bien mon affaire à moi, mm-hmm. ben ça peut nuire au reste de mon équipe. Donc, j'ai été vers un sport un peu plus individuel. Puis il faut dire aussi, j'ai été beaucoup en camping tout au long de ma vie, depuis que ma tendre enfance. Donc, on était beaucoup dans les lacs du Québec. Donc, j'aimais nager, j'aimais être dans l'eau. Donc,
C'est un milieu qui te va bien, l'eau,
oui.
En fait. Là, aujourd'hui, tu as 24 ans, Amélie,
oui.
C'est bien ça. Donc, tu me disais que ton implication sportive remontait à donc il y a plus de 10 ans, quand tu avais 13 ans. Dominique, lorsque Amélie a commencé à faire du sport, est-ce que vous voyez ça d'emblée déjà comme une bonne chose? Est-ce que vous aviez incité Amélie à faire du sport?
Oui, tout à fait, parce que c'est aussi pour socialiser. Mm-hmm. Avec Olympiques spéciaux, donc ils rencontrent d'autres jeunes d'âge similaire, puis ils se font des amis comme ça, mm-hmm. puis ça les garde en santé aussi.
Depuis les 10 années, même plus que 10 années qu'Amélie fait un sport, est-ce que vous sentez, je pose la question aux deux, qu'il y a eu une amélioration dans tes habiletés sociales, par exemple, Amélie?
Oui, tout à fait. Ça m'a rendu beaucoup plus confiante en moi. Je suis capable de me mettre mon pied à terre quand on commence à me bousculer un petit peu trop. Uh-huh. Puis je suis capable de mettre des opinions puis de les tenir.
Donner ton mot, en fait.
Oui.
De te faire entendre, ben, visiblement, si tu es rendu sur le conseil d'administration de Olympiques spéciaux. Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, de comment tes réussites dans la piscine ou dans le sport se sont transposées dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle?
Eh bien, je dirais le fait que je nage, ça m'a tenu beaucoup en forme. Ça m'a remis comme aussi me faire sentir bien. Je me sens bien dans mes imperfections, dans mes petites restrictions. Donc, c'est sûr, ça a aidé parce que j'ai rencontré des personnes formidables, tant au niveau des athlètes que les bénévoles, que les personnes ressources d'Olympiques spéciaux. Donc, ça a amené beaucoup de la confiance en moi. Ça m'a amené à être en forme. Donc,
Autant des bienfaits sur le plan physique, psychologique que sur la confiance en soi. Un de tes idoles, c'est Ricardo. Puis tu as même eu le courage d'aller lui parler récemment. Oui. Est-ce que tu peux me parler comment ça s'est déroulé?
Oui. L'autre jour, j'étais aux Anges parce que Ricardo, il avait ouvert l'an passé une boutique à Saint-Lambert. Mais Saint-Lambert, c'est à 50 minutes de la maison. 50 minutes, une heure. Donc là, quand j'ai appris qu'il ouvrait une boutique, Ricardo, à Laval, c'est comme...
Proche
de chez moi, donc à 15 minutes de la maison, en fait. J'ai sauté de joie. Puis là, la journée, ce qu'on s'était dit, c'est que j'allais aller à la journée d'ouverture, c'est-à-dire le samedi. Donc là, moi, je me suis dit, j'y vais le samedi. Mais par après, plus tard dans le mois, j'ai vu que Ricardo ouvrait... durant la semaine avant l'ouverture pour faire des tests. Donc moi, je me suis dit, j'y vais-tu le samedi ou j'y vais le vendredi? Quitte à peut-être avoir moins de personnes puis à avoir peut-être pas la chance de le voir. Puis en fait, j'ai réussi à le voir. Mm-hmm. Il était là le vendredi pour faire une petite entrevue.
Okay.
Une entrevue dans son magasin. Donc là, il fait l'entrevue, il finit. Puis là, il y a une fille qui disait... elle va nous l'amener. Donc là, après ça, je dis, mon père, il me dit, si t'es trop gêné pour parler à Ricardo, on va partir. Mais je dis, non. Puis la fille, elle a dit après ça, ben Ricardo, il y a une jasette, il y a une bonne jasette. Donc nous, après ça, on marchait dans le magasin un peu pour voir les produits. Puis là, Ricardo, il arrive derrière moi. C'est « Hey, allô, comment ça va? » Comme si on était deux bons amis, que ça faisait long, que ça faisait souvent qu'on s'était vus. Hyper sympathique, puis tout. Puis on parle, puis on se dit que mon père, c'était une personne géniale parce qu'il a été à Saint-Lambert, justement, l'an dernier pour mon cadeau de Noël. Donc là, à la fin de la discussion, ce que j'ai demandé si c'était possible de faire un petit stage d'une journée. Donc là, il a dit oui. Puis il m'a fait même aller voir la chef cuisinière, qui est nulle autre que Isabelle Plante. Je sais pas si vous le connaissez.
Non, je me connais plus en sport qu'en cuisine.
Oui, donc c'est une cuisinière quand même assez connue sur la télévision. Elle a fait plusieurs émissions comme Un chef à l'oreille. Okay. Et elle participe aussi à l'émission L'épicerie une fois de temps en temps.
Puis dans le fond, le fait que tu aies eu le courage de foncer, selon toi, ça a un lien direct avec le fait que tu as réussi à avoir plusieurs succès en sport, puis ça t'a donné confiance en toi.
Oui.
C'est bien ça?
Oui.
Est-ce que ça vous remplit de fierté d'entendre ça, Dominique, en tant que maman?
Ah oui, tout à fait. Amélie, elle fonce dans la vie.
J'imagine.
Je suis bien fière de ça.
Si on revient, parce qu'on a juste parlé très rapidement des bienfaits sur le plan physique, mais le fait d'avoir des compétitions à intervalles réguliers, ben non seulement ça te garde en forme, mais en plus, ça doit te garder une certaine discipline d'entraînement. Ça te permet d'organiser ton horaire du temps, j'imagine.
Oui, c'est sûr. Il faut que j'organise mes journées de stage, mes journées d'entraînement en vue des compétitions qui viennent, voir aussi... prévoir si j'ai de quoi une fin de semaine parce que j'ai une compétition pour aller dire à mes amis, en fait, c'est une activité, non, je peux pas, j'ai déjà une compétition.
Puis toutes ces compétitions-là, ça t'a aussi permis également de voyager.
Oui.
Ça t'a permis, j'imagine, aussi de rencontrer d'autres athlètes. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis dans les Olympiques spéciaux?
Oui, j'ai des amis qui viennent de l'Ontario. Je m'entends hyper bien avec des filles de l'Ontario. Ils m'ont même un peu appris, un tout petit peu, lors de certains jeux, à parler un peu anglais.
Ah ah! Puis ça te fait des contacts un peu partout si jamais tu veux voyager plus tard. Vous avez même déjà été à des compétitions à Vancouver et à Londres, deux endroits que tu as Londres en Ontario,
deux endroits que tu as
particulièrement aimé.
Oui, ça a été des belles compétitions, des compétitions avec des lieux de... Les places de compétition, ils étaient à rêver, c'était des piscines... fantastique comment il était fait. Puis
Je pense qu'Amélie, tu as réussi à convaincre, tous nos auditeurs, en fait, des bienfaits du sport et du succès d'Olympiques spéciaux. Pour en apprendre un peu plus, on va les rejoindre dans un instant. Maude, qui, elle, avec Olympiques spéciaux, veut emmener le sport dans le milieu scolaire. Tout ça dans un instant au Signal. Maude Poulain, le mieux, qui est responsable d'un programme à Olympiques spéciaux et qui est également kinésiologue, est au bout du fil avec nous. Bonjour Maude.
Bonjour à vous.
Vous êtes les bureaux d'Olympiques spéciaux, c'est à Québec, c'est bien ça?
Non, ben en fait, on a un bureau à Québec, en effet, mais nos bureaux, là où il y a le plus de staff, si vous voulez, ils étaient à Montréal, sur la rue Jean-Talon.
Est-ce que vous avez entendu un petit peu votre ambassadrice Amélie en entrevue avant qu'on vous mette en contact?
Oui, je l'ai entendu là, dans les quelques dernières minutes de la fin de l'entrevue d'Amélie. Là.
J'aimerais qu'on parle de ce programme-là que j'ai découvert en fouillant un petit peu sur votre site Internet, dont vous êtes la responsable, qui est un programme d'initiation en milieu scolaire au sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, ce programme-là consiste à quoi?
Oui, en fait, oui, exactement. Moi, je suis responsable du programme scolaire et jeunesse. Et le programme scolaire existe depuis 2010. Donc, le but du programme était vraiment d'étendre nos services dans les écoles primaires et secondaires de tout le Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est d'offrir des expériences sportives positives aux élèves qu'on voit en organisant des événements sportifs. Évidemment, les événements sont organisés selon toujours les besoins, les objectifs des écoles, des professeurs, puis des élèves. On veut vraiment que l'élève soit content de participer à nos activités sportives, puis qu'il prenne le goût de bouger. C'est mon but premier.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur des événements qui sont organisés? Parce que je pense que ça peut aller d'un événement qui réunit seulement une classe à de grosses Olympiades. Là.
Exactement. C'est, comme je vous disais, c'est vraiment organisé selon le besoin et les objectifs des écoles. Donc, parfois, ça peut aller d'une initiation de curling intérieur dans une classe de 11 personnes ou encore, des fois, c'est comme une compétition d'athlétisme qu'on fait à chaque année au PEPS de l'Université Laval qui regroupe environ 300 élèves de toute la région. Donc, c'est vraiment toujours selon l'objectif que les élèves veulent pour leurs élèves.
Vous êtes kinésiologue, donc vous êtes bien placé pour nous dire, en fait, c'est quoi les bienfaits que le sport peut apporter ou peut entraîner sur le corps d'une personne qui a une déficience intellectuelle?
Bien, je pense que la population générale est bien au courant là, des bienfaits de bouger pour nous. Donc, évidemment, il y a une diminution des maladies cardiovasculaires, du diabète, mais plus particulièrement pour notre clientèle, là, on remarque là, une augmentation de l'autonomie dans les activités quotidiennes, une amélioration de la condition physique, mais au-delà des bienfaits physiques, il y a également là, une augmentation de l'estime de soi, on y développe beaucoup de relations interpersonnelles dans les clubs sportifs. On favorise également l'inclusion sociale. Donc, tout ça par rapport au sport, là, c'est très important.
Est-ce que c'est difficile pour une personne avec une déficience intellectuelle d'intégrer une équipe sportive, que ce soit une équipe sportive spécialisée ou régulière?
Je vais parler plus pour dans l'équipe sportive plus spécialisée avec nous. Pour nous, aucunement, nos bénévoles qui s'occupent de nos sports sont habitués à voir toutes sortes d'élèves, toutes sortes d'athlètes. Donc, je pense que l'intégration est très, très, très facile. Pour ce qui est d'intégration dans une équipe régulière, ça, je pourrais pas dire parce que j'en connais pas beaucoup.
Toi, Amélie, tu es dans un club de natation régulier à Laval.
Oui.
Ça se passe comment là-bas?
Pas pire cette année. Je me retrouve avec des nageurs qui sont beaucoup plus altruistes, un peu plus comme ils vont venir me voir, ils vont venir me parler, beaucoup plus que les autres années, je dirais.
Oui, on le devine tout à fait. Maude, est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment ça se passe quand peut-être qu'un professeur nous écoute en ce moment un peu partout au Québec puis qui aimerait faire venir soit ces Olympiades ou encore d'autres ateliers de moindre envergure dans leur école? Ça fonctionne comment si on veut s'inscrire?
c'est vraiment pas compliqué. Le professeur ou la direction, ou même des fois, c'est des parents qui me contactent directement, ont seulement à regarder sur le site web mes coordonnées téléphone ou encore courriel. Puis, à la suite d'une première échange là, au téléphone, on se planifie une rencontre plus physique. Souvent, même, je rencontre les élèves, je vois un peu leur classe où qu'on peut faire les activités sportives. Puis, à la suite là, qu'on a vraiment ciblé les besoins. Surtout, ben là, à ce moment-là, on peut organiser l'activité. Nos programmes sont tout à fait gratuits. C'est important de le mentionner. Puis, donc, vraiment, c'est vraiment juste me contacter, trouver mes coordonnées sur notre site web et me contacter.
Puis, c'est vraiment une solution économe parce que des fois, les classes n'ont pas beaucoup de moyens pour organiser des sorties. Là, c'est une activité qui se fait sans aucun coût associé puis qui est une activité qui va profiter à tous.
Exactement. Puis, comme je mentionnais, des fois, on fait des sorties de plus petite envergure, comme je peux me déplacer directement dans les écoles, mais souvent, c'est de beaucoup plus grande envergure. On fait aussi des journées d'initiation. Donc, depuis 3 ans, on fait des journées d'initiation au ski alpin. Donc là, on apporte les écoles là, faire un cours de ski alpin avec des moniteurs, un équipement. Donc ça, c'est beaucoup plus dispendieux pour les écoles, mais ça, c'est des choses que nous, on peut se permettre de faire.
Est-ce que c'est aussi un objectif connexe de votre équipe d'utiliser ces Olympiades-là ou ces événements-là pour recruter des athlètes puis les intégrer dans des sports actifs?
Définitivement, un début premier, c'est vraiment que les élèves prennent le goût de bouger à travers l'école, mais qu'ils puissent ensuite faire la transition de l'école vers nos programmes civils pour qu'ils continuent à faire l'activité physique et qu'ils ne tombent pas dans le pattern un peu plus sédentaire. Donc oui, effectivement, c'est un de mes vœux là, qui continue à faire du sport avec nous à la suite que je les ai vus à l'école.
Oui, parce que vous êtes présent dans toutes les régions. Vous avez ce que vous appelez des sections locales ou ce qui a en tout 17 sports auxquels c'est possible de s'inscrire si on est un athlète déficience intellectuelle de la région.
Exactement.
Puis d'ailleurs, ben toi Amélie, tu n'as pas profité de ce programme-là parce qu'il n'existait pas alors que tu étais au secondaire,
oui.
Mais tu aurais bien aimé en profiter.
Oui, ça aurait été quelque chose d'agréable à essayer. C'est ça, ça aurait été fantastique d'avoir ça dans mon temps.
Puis toi, tu penses qu'un programme comme ça, son principale utilité, c'est que ça va faire connaître plus rapidement ce qui est offert aux personnes avec une déficience intellectuelle.
Oui, tout à fait. Après ça, c'est juste savoir rediriger les enfants vers les sections locales, vers le volet...
Civil?
Civil.
Super. Juste pour en terminant, Maud, on parlait des 17 sports qui sont présents. Peut-être pour donner le goût aux gens de s'inscrire, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des sports qui existent? Est-ce que c'est un peu comme les sports réguliers?
Oui, tout à fait. On a le ski alpin, le curling, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le hockey intérieur, le soccer, le basketball. Donc, on en a vraiment beaucoup. On a la raquette, la gymnastique rythmique, la natation. Amélie, est-ce que j'en oublie?
On est presque rendu à 17, là.
Attends, on était rendu à combien?
L'athlétisme. On a une belle panoplie.
La balle molle.
Vous êtes pas mal.
Merci, Amélie.
La balle molle.
Bien joué. Maud Poulain-Lemieux, donc responsable de ce programme d'initiation au sport dans les milieux scolaires chez Olympiques Spéciaux. Si on veut s'inscrire, on peut visiter olympiquespéciauxquebec.ca pour avoir plus de détails et trouver les coordonnées de Maud. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler aujourd'hui, Maud.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. On n'a presque pas parlé de ton rôle sur le conseil d'administration. Amélie, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on en glisse un petit mot. Premièrement, c'est quoi le poste que tu occupes au sein de CA?
J'occupe le poste, je suis la voix des athlètes.
C'est ça.
Ce qui peut être amélioré un peu durant les compétitions, des idées de levée de fonds aussi. Des fois, on me demande si j'ai des idées qui pourraient aider pour des levées de fonds.
Mm-hmm. C'est un peu comme, en fait, dans les comités olympiques ou les comités paralympiques, il y a toujours comme une place qui est réservée aux athlètes pour qu'ils soient le représentant de leur acolyte.
Oui.
Mm-hmm. Puis toi, qu'est-ce qui t'a incité à vouloir t'impliquer au sein d'un CA? Parce que c'est une grande responsabilité. Moi, pour avoir déjà été sur un CA, souvent, c'est long, c'est pénible, ces réunions-là. C'est un engagement en temps et en temps et en intensité, là, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Pourquoi t'avoir lancé dans cette aventure-là?
À la base, je me suis fait approcher par les personnes du CA,
mm-hmm.
il y a 6 ans. pour avoir un athlète sur le CA. Donc, j'ai dit oui. Puis j'ai comme un peu appris au fur et à mesure comment ça fonctionnait. Puis j'ai essayé de donner mes suggestions. Donc, c'est un peu eux qui m'ont contacté pour que je fasse partie du CA. Puis je me suis dit, ça pourrait faire une bonne expérience de vie, voir comment que ça fonctionne un CA. Puis, aider aussi pour améliorer le mouvement. Là.
Puis visiblement, tu aimes ça vu que tu en as ton troisième mandat.
Oui.
Peut-être un quatrième mandat. Est-ce que tu aimes ça assez? Tu sais pas. C'est beaucoup d'heures, on l'imagine, oui. Hein, avec les heures de natation aussi.
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de toi? Ça prend combien d'heures dans ton horaire, l'entraînement en piscine?
L'entraînement en piscine, en ce moment, c'est à peu près l'équivalent de 4h30, 5h.
Par semaine?
Par semaine.
Puis, est-ce qu'il y a des compétitions qu'on devrait suivre dans les prochains mois de ton côté?
Oui, il y a le défi sportif qui va se retrouver au mois de fin avril, début mai.
Oui.
Ça, c'est une grosse compétition. Il va y avoir aussi plus tard, beaucoup plus tard dans l'année, les championnats provinciaux, à ne pas confondre avec les compétitions d'été, les provinciaux.
Okay.
C'est juste en natation, puis dans le fond, on réunit tous les groupes de nageurs, toutes les sections.
Pour les athlètes, pour les nageurs avec une déficience intellectuelle,
oui.
C'est ça?
Oui.
OK. Puis ça va avoir lieu où?
Ça se déplace.
Ça se déplace à chaque année?
Ça se déplace à peu près à chaque année.
OK.
Les places les plus utilisées, c'est Joliette, des fois, Gadebois. Des piscines dans le genre. Là.
OK. Ben merci beaucoup à vous deux aujourd'hui d'être venus en studio pour nous faire part de votre implication. Bravo aussi à Dominique là, d'avoir chapeauté et appuyé votre fille dans ces démarches-là. J'imagine que
merci.
Pour tous les parents d'enfants d'école, là, que ce soit amener son enfant à l'aréna le matin pour des pratiques de hockey ou dans les différents championnats, ça demande des heures d'engagement. Mais en même temps, des fois, ça permet de faire des petits voyages à Vancouver.
Oui, fait.
C'est assez bien fait. Puis je suis sûr que ça vous remplit de fierté de voir aussi le travail que Amélie fait autant dans la piscine que sur le conseil d'administration.
Absolument.
Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. Ça nous a fait un grand plaisir.
Merci.
Quelques petites nouvelles en bref pour terminer cette belle émission. La Grande-Bretagne enquête sur la triche dans le monde paralympique. Comment déterminer le degré de handicap d'un athlète afin que tous concourent de façon équitable? Une nouvelle fois, la question de la classification des athlètes paralympiques se retrouve sur le devant de la scène. Depuis plusieurs jours, une commission parlementaire britannique recueille des témoignages accablants sur le système de classification des athlètes paralympiques. En cause, le Comité international paralympique et la façon dont celui décide dans quelle catégorie un athlète concourra en fonction de son handicap. Un ancien expert de l'instance dirigeante du handisport a témoigné anonymement devant la Chambre des communes pour révéler de nombreuses tricheries. Cet expert, cité dans le Guardian, a affirmé connaître un pays qui coache les athlètes avant les tests de classification pour qu'ils soient reversés dans des catégories plus avantageuses, avant de préciser qu'il suspectait d'autres pays de faire de même. Concrètement, les athlètes paralympiques useraient de différentes techniques pour amplifier artificiellement leur handicap et concourir dans des catégories plus faciles. Des tricheries récurrentes, d'après ce témoin, qui prennent la forme de stratagèmes parfois artisanaux. Les membres de la commission parlementaire ont ainsi découvert que certains athlètes faisaient de l'exercice avant les tests pour paraître plus faibles ou se roulaient dans la neige pour ankyloser leurs muscles. D'autres auraient eu recours à des produits comme le Valium afin d'affecter leur performance pendant ces tests. Les témoins entendus ont alerté les parlementaires sur le déficit de formation des athlètes en charge de terminer dans quelle catégorie les athlètes seront amenés à concourir. C'est un article qui se trouvait dans l'article Le Monde. Je pense que Mathieu veille au grain hein, pour me corriger quand je fais des lapsus. Un article qui se trouve dans le journal Le Monde, excusez-moi. Deuxième petit texte, ben, nouvelle encore une fois triste et dommage. Le comité paralympique belge et la Ligue flamande ont révélé avec beaucoup de tristesse le décès survenu dimanche à l'âge de 24 ans du joueur de boccia Kenneth Vervimp des suites d'une inflammation pulmonaire. Membre de l'équipe paralympique belge qui avait décroché une 5e place l'année dernière aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, il était atteint d'une dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie qui est dégénérative. Avec ses coéquipiers, il avait remporté le titre de champion d'Europe en 2015. C'est un article tiré du journal de La Libre. Le vétéran joueur étoile de para-hockey sur glace Brad Bowden, un espoir pour les Jeux paralympiques d'hiver 2018 en mars prochain, est l'athlète ambassadeur pour paralympiens recherchés du Comité paralympique canadien. Ils vont avoir une activité qui va être co-organisée avec l'Institut canadien de sport de l'Ontario le 26 novembre à 9h au Centre sportif panaméricain de Toronto pour recruter les talents paralympiques de demain. C'est enfin un programme conçu pour identifier les futurs athlètes potentiels, une activité d'une journée qui offre aux personnes avec un handicap la chance de tester leur habileté et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. Un objectif de paralympiens recherchés est de trouver des athlètes qui ont un solide potentiel pour produire rapidement des performances sur le podium au niveau national ou international et de soutenir quiconque vient à paralympiens recherchés pour avoir accès à des occasions sportives appropriées, que ce soit locales ou nationales, a dit Jenny Davy, gestionnaire au cheminement paralympique pour le comité. Les participants âgés de 14 à 35 ans qui ont un handicap physique ou une déficience visuelle sont invités à participer. Ils pourront s'y rencontrer et obtenir des conseils de Bowden, un des joueurs étoiles légendaires de para-hockey sur glace du Canada. Il avait inscrit le but gagnant et obtenu 2 passes pour conduire le Canada à une victoire de 3-0 contre la Norvège pour remporter la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Sochi. Et une dernière nouvelle, lors du 25e Gala Athlétars de la Fédération québécoise d'athlétisme qui avait lieu la semaine dernière à Longueuil, Brent Lakatos a été nommé athlète masculin par excellence en parathlétisme. Le palmarès de l'athlète de Dorval qui s'entraîne en Angleterre est éloquent. Médaillé d'or des épreuves de 100, 200, 400 et 800 mètres de la catégorie T53 en fauteuil roulant au championnat du monde de Londres, le Québécois de 37 ans fait figure de phénomène dans le monde du para-athlétisme. Du côté féminin, c'est la Sherbrookeoise Diane Roy qui a été nommée athlétasse de l'année. Elle a terminé 7e du 5000 mètres et 8e au 800 mètres T54 lors de ces mêmes championnats. À Londres, c'est ce qui conclut cette belle émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez réentendre l'émission au complet en vous rendant sur vusetvoix.com et en téléchargeant les balado-diffusions. Merci beaucoup de nous écouter et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire.